Une création.
Blast.
Donc il faut juste se dire combien de personnes nous voulons, une sorte de immigration choisie plutôt que de le subir. Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
Moi, en Tunisie, moi, j'ai jamais entendu parler des APL. Je suis pas venue pour ça, par exemple.
Menace à l'ordre public pour les personnes étrangères n'est pas la même pour les personnes françaises.
Je m'appelle Singh, je viens de Inde. Je suis venu en France en 2015. Jusqu'à maintenant, je travaille. Jamais je vais demander aide à quelqu'un. J'ai fait tous les chemins, tout seul moi-même. J'ai déposé les dossiers, titre de séjour, 2020-21. J'ai déposé deux fois. Comme j'ai déposé les dossiers, et une fois j'ai été contrôlé à Gare du Nord, contrôle des papiers. J'ai mis mon ticket, je prends les lignes 5, et là j'ai en contrôle. Parce que j'ai couleur marron. Les policiers savaient que c'est les personnes indiennes, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Elle a contrôlé direct, elle a dit monsieur police, me dit oui, elle a dit votre passe Navigo, me dit oui, il est là. Elle dit, est-ce que vous avez un séjour au papier? Moi j'ai dit non. Elle est venue voir nous. J'ai parti avec eux, elle m'a gardé à vide pour deux jours. À la fin, elle m'a donné un QTF. Un QTF, et tu veux quitter le pays, tu n'as même pas le droit de rester en France. J'ai montré mon contrat de travail, j'ai dit je travaille, j'ai des fiches de paie et tout. Il a dit non, on ne peut pas voir ça. Je ne sais pas ce qui se passe, on dirait que je suis un terroriste. Maintenant, j'ai relevé pour aller au travail et à la fin, tu vas contrôler à Gare du Nord. Mais ce n'est pas logique. Je n'ai vu aucune blanche qui est là avec nous. Il n'y a que des personnes, soit Inde, soit Pakistan, soit du Bangladesh. Ils se contrôlent chaque fois. C'est arrivé trois fois. Première fois, ils m'ont contrôlé à Gare du Nord. Deuxième fois, on s'est séparé à Gare du Nord. Troisième fois, il m'a contrôlé dans le magasin. Je pense que quelqu'un a annoncé qu'un mec qui travaille dans ce magasin, il est à son papier et tout. Parce que sinon, personne ne vient contrôler comme ça direct. À la fin, il est arrivé deux civils, deux mecs. Il a dit, vous travaillez ici. Je dis oui. Il a dit, ok, venez voir avec nous. Il a mis les manettes. Il a dit, c'est quoi votre prénom? Je donne mon prénom. Comme je donne mon prénom, j'ai vu, il a un page. Déjà, il a créé mon nom sur sa page. J'ai vu ça déjà. Donc, il m'a pris, il m'a donné un QTF aussi, direct. Même 7 ans, je travaille avec des contrats, j'ai des fiches de paie, j'ai tout. J'ai montré tous les documents. Elle a dit, je s'en fous. Elle m'a donné un direct QTF. J'ai demandé pourquoi vous m'avez arrêté. Elle a dit, non, t'as pas le droit de travailler. C'est tout. Donc, j'ai 3 QTF. Je ne sais pas pourquoi il va faire ça, avec la couleur, soit on a fait quelque chose de bêtise. On ne rien faire de grave, on ne vend pas de drogues sur la route, on ne vend pas, on agresse pas des gens, on ne parle pas mal aux gens, on ne vole pas des sacs, on ne vole pas des téléphones et tout dans un métro. On fait quoi? Métier à la maison. On ne fait pas quelque chose de criminel.
Si c'est obligation de quitter, tu quittes.
Bah non, mais on ne les appelle pas quitter. C'est obligation de quitter le territoire, tu quittes le territoire. C'est des charters, excusez-moi. Je suis désolé.
Obtenir
oui.
La ligne de fermeté qu'il s'est promise sur la question de l'immigration, Bruno Retailleau se dit prêt à prendre tous les moyens dont il dispose. Son principal chantier, l'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire français.
Je vois, moi, c'est que c'est un OQTF de 22 ans, qui n'avait rien à faire dans Paris, en France.
Absolument.
Et qui a enlevé la vie à une jeune fille de 19 ans qui faisait ses études dans une grande faculté, et c'est un drame.
On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent, et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance. Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national.
Quand Darmanin il dit qu'il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, moi je pense que c'est surtout comment les politiques dans leur discours s'adaptent à des stratégies électoralistes ou politiques, quoi. Puisque lui, il était aussi dans ce cadre-là à défendre la proposition d'article métier en tension. 4 ans auparavant, Emmanuel Macron disait que ceux qui fuient leur pays parce que c'est la guerre, il faut les accueillir. Mais ceux qui sont là alors qu'ils peuvent vivre librement, il faut les raccompagner. Sous-entendu, les travailleurs migrants économiques sans papier. Et 4 ans plus tard, on est dans une logique inverse parce qu'il y a quelque chose à défendre. Donc en fait, c'est comment aussi on manipule les mots et les discours pour porter un message qui est fondé sur des raisons foncièrement politiques et électoralistes, à mon sens. Je m'appelle Emeline Zoukbédé et actuellement, je suis chercheuse postdoctorale à l'Institut Convergence Migration. Les OQTF, donc les obligations à quitter le territoire français, elles ont remplacé les invitations à quitter le territoire français. Et donc, une OQTF, on peut l'avoir dès qu'on fait une demande de titre de séjour et qu'on ne rentre pas dans les critères. On peut l'avoir aussi si on se fait arrêter et qu'on n'a pas des titres de séjour. Ce n'est pas un signe de délinquance, en fait, forcément, l'OQTF. Et donc, ce rapprochement que font les médias entre immigration, délinquance et OQTF, bah, ce sont des gros raccourcis. Ce sont des gros raccourcis avec cette habitude qu'on a de décrire l'étranger qui commet un délit ou un crime quand on ne mentionne pas l'origine pour un Français. Plus le contexte est anxiogène, plus les gens sont manipulables et plus on fait ce qu'on veut. Et plus on met de la sécurité et on run sur les libertés. En fait, on est dans un climat comme ça un peu. Et donc agiter l'immigration, immigration égale insécurité égale délinquance, bah, en fait, ça fait peur à tout le monde. Mais c'est pas vrai, mais en tout cas on joue sur ces paniques-là pour pouvoir mettre des dispositifs de plus en plus sécuritaires, restreindre les libertés, quoi.
Alors nous on a beau demander, ça veut dire quoi, menace à l'ordre public? Il n'y a pas de définition juridique, hein. Mais quand même, pour un immigré, si vous traversez la route-là en dehors des passages cloutés, vous êtes tout de suite une menace à l'ordre public. Mais une Française ou un Français peut traverser en dehors des passages cloutés. Il n'est pas une menace à l'ordre public. Si moi je pisse au coin de la rue et je me fais arrêter, c'est une menace à l'ordre public. C'est des prétextes, c'est du racisme. Menace à l'ordre public pour les personnes étrangères n'est pas la même pour les personnes françaises. Ça s'appelle du racisme. Et il nous parle des droits de l'homme. Si la justice dont il parle, c'est les faits pour droits de l'homme, nous on demande ça fait quoi de nous. Parce que si c'est droits de l'homme tout court, qu'il soit noir, blanc ou arabe, s'il parle de l'homme, on fait partie. Mais sinon, ils n'ont qu'à ajouter les droits de l'homme blanc. Parce que ces droits de l'homme, hein, ça ne veut pas dire laisser les gens en péril dans la Méditerranée, laisser les gens mourir dans la Méditerranée, hein, ça ne veut pas dire ça. Ces droits de l'homme ne veut pas dire déclencher les guerres chez le voisin pour pouvoir les piller. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ces droits de l'homme ne veut pas dire maintenir les gens ici, dans la précarité, dans la misère. Donc, les droits de l'homme dont il parle, elle n'est pas faite pour nous, je pense. Oui, je suis Dembélé Aboubakar, un militant des collectifs des travailleurs sans papier de Vitry, délégué des grévistes à Chronopost d'Alfortville. Si on contrôle, on vous amène dans un commissariat. Vous allez passer déjà 24 heures de garde à vue. Et après, si vous avez un peu de chance, au commissariat, ils vous libéreront avec l'obligation de quitter les territoires. Sinon, ils vous envoient dans une centre de rétention. Et vous allez rester 90 jours, sinon 120 jours. Après, c'est l'expulsion. La France est la championne de l'Europe en matière d'obligation de quitter les territoires, sans pourtant l'exécuter. Et nous, on sait c'est quoi l'objectif derrière. C'est maintenir les gens dans la précarité, dans l'irrégularité. Ils ne vont pas quitter le territoire, ce n'est pas vrai. Quand même, ils vont rester là en train de travailler, cotiser, en train de se faire exploiter. Et derrière, ils gagnent quoi? Rien. Donc ça permet de les maintenir dans la précarité, dans l'irrégularité. Le patronat, il trouve ses besoins et l'État, il profite des cotisations que la personne fait. Et quand même, derrière, on voit tout ce qui est dit. Hein, ces gens-là, ils sont là pour profiter de notre système. Le ministre de l'Intérieur l'avait dit. Il y avait 700 000 personnes en situation irrégulière qui travaillent en France. Parmi ces 700 000 personnes-là, 83% de ces personnes travaillent, cotisent, payent des impôts. Pour vous dire comment l'État, il profite de nous. Sans papier, il n'a pas droit aux allocations familiales, c'est pas vrai. Des prestations sociales, aucun sans papier n'a droit. Tout ce qu'on a droit, c'est aide médicale d'État. Et ça, il faut savoir combien de personnes en a. Très, très peu. Hein. Parce que même les gens qui arrivent à travailler sous leur nom, tout de suite, sécurité sociale, ils vont leur demander leur dernier bulletin de paye. Ils les donnent. Après, ça y est, ils vont dire, bah, vous n'avez plus droit à l'aide médicale d'État parce que vos revenus sont trop. Mais quand même, on ne vous donne pas la carte vitale. Et vous êtes là en train de travailler, en train de cotiser, en train de payer des impôts sans aucune assurance derrière. Si vous faites un accident de travail, c'est de votre poche, vous allez vous soigner. Si vous tombez malade, vous vous soignez de votre poche. Et on sait tous combien ça coûte. Donc tout ça, c'est fait exprès. Moi, je ne savais pas qu'il y avait aide médicale d'État en France. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des prestations sociales. Je ne le savais pas. Je ne suis pas venu pour ça. Donc c'est le système qui profite de nous. Le système, nous, on cotise, on paye des impôts. Si je continue comme ça jusqu'à la retraite, je n'aurai pas de retraite. Je ne peux pas me mettre en chômage. Si je suis malade, je ne peux pas me soigner. Si je fais un accident de travail, je me débrouille. Je ne peux pas. Aucun sans-papier régularisé ne se mettra déjà pas au chômage. Une fois régularisé, ils vont faire deux boulots, trois boulots pour dire, écoute, maintenant, moi, je suis venu pour ça, j'ai un papier, il faut que j'arrive à aider ma famille pour qu'ils restent tranquilles. Donc, les systèmes, ils profitent de nous. On profite de rien du tout, rien du tout. Aide médicale d'État, ça donne accès à quoi? Qu'au Doliprane. Si les médecins vous prescrivent les médicaments, vous pouvez juste avoir les Doliprane gratuitement et quelques sirops peut-être. Sinon, le reste, il faut le payer. Après, s'il y a un autre avantage, c'est la réduction du transport, solidarité transport, 50%. C'est tout. Et ça coûte cher à l'État.
Déjà, l'aide médicale d'État, c'est un régime particulier de la sécurité sociale. Et ça représente, 0,5% du budget de la sécurité sociale. Donc, clairement, ça coûte pas trop cher. Ensuite, c'est une question de santé publique. En fait, de manière très hypocrite et égoïste, si vous ne soignez pas des populations qui sont sur votre territoire, vous risquez aussi d'avoir des épidémies de vous savez pas quoi. Et donc, c'est une responsabilité en fait, collective et citoyenne. En fait. Si vous ne vaccinez pas une partie de la population, que vous ne la soignez pas, bah, l'autre partie de la population, elle peut aussi tomber malade. Enfin, voilà, donc on est même plus sur un truc d'accueil. Non, et il n'y a pas de générosité avec l'aide médicale d'État. Il y a cette question aussi de dignité et d'accueil. En fait, si la France se revendique terre d'accueil, etc., au bout d'un moment, c'est pas en rognant sur les droits sociaux et les droits humains que la France restera une terre d'accueil. Donc en fait, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. La France et l'Europe ne sont pas du tout accueillantes. La plupart des personnes qui fuient les conflits vont dans les régions d'origine. Si on rétablit les proportions, en vrai, vraiment, c'est vraiment le Moyen-Orient qui accueille le plus les populations qui fuient dans les pays limitrophes, ce qui paraît logique. Donc il y a beaucoup d'idées reçues aussi à déconstruire. En fait, il faut avoir aussi cette volonté de la déconstruire. Ce n'est pas les plus pauvres qui partent, parce que les plus pauvres, ils partent à pied, donc ils partent à côté. Enfin, c'est bête, mais en fait, voilà, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de l'argent pour prendre l'avion, et même pour traverser la mer, ça demande des sous. Ensuite, il y a quand même aussi la plupart des personnes migrantes dans le monde, elles circulent dans leur continent. En fait, donc c'est clairement pas des migrations sud-nord qui sont les plus nombreuses, c'est plutôt sud-sud, enfin en tout cas, par exemple sur le continent africain, donc les migrations intra-africaines ou intra-américaines pour l'Amérique du Sud. Donc il y a aussi tout ce fantasme en fait d'espèce d'Eldorado de que serait l'Europe et donc faut construire une forteresse parce que tout le monde viendrait, tout le monde voudrait venir. Puis il y a plusieurs idées qui s'entrecroisent. Déjà de se dire que on peut pas faire circuler les biens, les capitaux, mais pas les personnes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, et on ne peut pas sélectionner. Ensuite, il y a aussi un peu ce fantasme que les pays de départ seraient des pays pauvres et de misère, en fait, alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui restent chez eux, en fait, qui restent dans leur pays. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à déconstruire, je pense, et à repenser sur nos imaginaires migratoires.
Moi, je m'appelle Pshira, je suis d'origine tunisienne. Moi, en Tunisie, moi, j'ai jamais entendu parler des APL. Je suis pas venue pour ça, par exemple. Il y avait des amendements dans le cadre du projet Asile et Migration que les personnes exilées, si la personne, ça fait pas 5 ans qu'elle est en France, elle peut pas bénéficier de l'APL, elle peut pas bénéficier de telles primes d'activité, elle peut pas bénéficier de telles choses, comme si la personne, elle est venue à la base dans son pays pour ça. Ce côté qu'on voit beaucoup dans le projet de loi Asile et Immigration qui tourne autour de l'idée de les personnes exilées soupçonnées tout le temps. Le soupçon d'être un faux demandeur d'asile, la soupçon de délinquance, la soupçon de menace à l'ordre public, ça crée beaucoup d'inquiétude. Tout ça, C'est vraiment, c'est très violent. Et c'est, on va vers de plus en plus de violence. Des idées qui sont propagées, et nous, ça fait mal d'entendre ça. C'est bizarre, et c'est pas du tout la réalité. Au début, il y a un accueil digne, et c'est le minimum de l'accueil digne. Surtout si on parle déjà d'un parcours de traversée qui peut prendre des mois, vu des années. Du coup, à la base, la personne, quand elle arrive, elle a besoin de... un moment de répit qui peut prendre, et de réparation qui peut prendre des années, par exemple.
Je m'appelle Mariama Sidibé, ex sans papier de la CSP 75, porte-parole des sans-papiers de Paris. Et j'ai 67 ans. Moi, je suis rentré ici en France en 2002. J'ai fait 8 ans sans papiers. Avant que j'aie mes papiers, j'ai fait tellement de travail ici que voilà. J'ai fait garde d'enfants, aide à domicile. Et j'ai fait le plonge dans les hôpitaux. Après, quand j'ai eu mes papiers, j'ai fait une formation, aide à domicile, parce que c'était un métier qui m'a beaucoup plu, et j'ai continué. Jusque j'ai eu un accident de travail, et j'ai pris la retraite. Tous les métiers qu'on fait sont durs. Les métiers en tension, il n'y en a pas, c'est la France même qui est en tension. Ce n'est pas ici en France qu'on a appris à parler le français. Nous avons étudié chez nous avant d'arriver ici. Comme si on est là aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour tuer, on n'est pas là pour tricher. Nous sommes là pour travailler. Parce qu'il y a un moment donné, on doit dire top. S'ils veulent qu'on rentre, c'est très simple, ils veulent qu'on rentre. Tout ce qu'ils ont pris chez nous, là, les mines, l'or, le diamant, ils n'ont qu'à nous amener tout, on va rentrer. Tant qu'ils n'ont pas amené là, on est là. C'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on travaille, c'est ici qu'on cotise, c'est ici qu'on va mourir aussi. C'est quelque chose qui m'a plu. Je travaillais, mais malgré que je travaillais, quand je termine, je viens, c'est pour au moins soutenir. Parce que c'est d'autres personnes qui m'ont soutenu jusqu'à ce que j'ai eu mes papiers. Comme aujourd'hui, je suis là à soutenir aussi mes camarades, pour qu'ils puissent avoir, voilà, leur montrer le chemin et leur dire de ne pas avoir peur. On est là pour réclamer nos droits. Mais ce n'est pas en dormant à la maison qu'on va trouver ces droits-là. Il faut bouger.
Oui, allô, bonjour. Oui, le piqué de grève de Chronopost d'Alfortville, il a été expulsé illégalement par la préfecture du Val-de-Marne le 31 octobre 2024, au petit matin. Hein. Et quand on dit illégalement, c'est-à-dire ils n'ont jamais affiché l'arrêté d'expulsion. La manière aussi, c'était, nous on dit, c'était la mission, c'était gratuite, parce que 3 ans, des gens étaient serrés en piqué de grève, ils vivaient là, nuit et jour, ils ne nous ont pas laissé pour qu'on récupère nos affaires personnelles. Ils ont amené des grosses machines, des mini-pelles, ils ont tout détruit vraiment. Passeport, il y a des personnes qui avaient des pièces d'identité, actes de naissance, il y avait des personnes qui avaient de l'argent sur place et d'autres affaires. Ils ont expulsé, après depuis, on continue à relancer la préfecture tous les vendredis par des rassemblements, par des manifestations. Il faut qu'ils répondent parce que les gens en ont marre. Depuis des années, ils sont sur les territoires, ils travaillent. Parle français, il y en a qui sont là depuis 10 ans, il y en a qui sont là minimum, c'est 6 ans. Il y a la lutte qui peut leur faire céder, qui peut forcer les portes à s'ouvrir. Donc nous, on les voit comme ça. La lutte, elle paye toujours. Soit on gagne, soit on apprend, mais à un moment donné, on gagnera.
Pendant la crise de Covid et tout, on était beaucoup enfermés à la maison et tout. J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, j'ai découvert la lutte des collectifs sans-papiers et on parlait de la marche, la grande marche des sans-papiers de 2020. Et à ce moment-là, j'ai rejoint la grande marche des sans-papiers et j'ai fait l'axe Strasbourg-Paris. Et voilà, j'ai rejoint la lutte des collectifs des sans-papiers, que ce soit par des marches, par organiser des journées. Pendant des années, j'ai subi des violences institutionnelles. Mais à ce moment-là, j'ai senti qu'on est en train d'agir contre un système. Aussi, en regardant d'autres situations des camarades, il y a de la solidarité entre nous. On parlait, on discutait, on préparait des choses, on organisait des choses. Et à un moment donné, j'ai senti que j'ai oublié ce problème, ce dossier que je voulais déposer à la préfecture vers quelque chose de plus grand. Et on s'est mis à agir tous ensemble. À la fin, c'était normal que j'ai obtenu mon récépissé, j'étais régularisée. Mais ce jour-là, par exemple, moi personnellement, quand j'ai reçu mon récépissé, je me suis dit, je voudrais que toute femme sans papier soit régularisée en France. Et nous, ce que dans nos rêves, par exemple, c'est une lutte collective, des collectifs de sans-papiers avec les syndicats, mais surtout c'est là la base, c'est les personnes exilées qui prennent en main leurs décisions, que ce soit déjà entre nous, on parle entre nous, on décide entre nous, nous menons notre lutte. C'est comme ça qu'on pourra changer des choses, parce que c'est pas notre qui viendra discuter déjà à notre place.
Les gens qui veulent faire les ménages, qui veulent faire les marteaux-piqueurs, qui veulent travailler en déchargeant les colis, s'ils veulent les faire, ils les font. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas ce métier. Mais dire que vous êtes obligé de faire ça, et si vous ne faites pas ça, nous, on n'a plus besoin de vous. C'est une vision utilitariste. Hein? Ça revient à dire que vous êtes inférieur à nous. Et ça, nous, on n'accepte pas.